qui a une activité liée au jeu de rôle. Mais quelle est-elle, Quentin, cette activité ?
Bonjour Seb. Cette activité, c'est Time to Roll. C'est une activité du coup qui permet de louer les services d'un maître du jeu pour venir faire des parties à domicile. Ce maître du jeu, c'est moi.
Ok.
Pour venir animer une partie de jeu de rôle, pour découvrir le jeu de rôle, ou pour juste s'offrir du jeu de rôle justement chez soi, clé en main, complètement sans avoir de préparation. Justement, juste on veut essayer le jeu de rôle. On veut pouvoir le faire chez soi, du coup tranquillement avec le confort de chez soi. Juste, je viens avec tout ce qu'il faut, clé en main, des scénarios tout prêts. Prêt à être dégommé par les joueurs.
Parfait. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de ton activité, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Est-ce que c'est ton activité à temps plein ou est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Alors je suis Quentin, je suis angevin depuis 7 ans maintenant.
Bienvenue.
Je travaille du coup principalement dans la vidéo et du coup Time to Roll c'est une activité annexe en parallèle pour me permettre justement de partager un peu cette passion qui me suit depuis un moment maintenant. Ça fait peut-être 15 ans que je suis rôliste. J'y joue depuis que je suis gamin en soi et donc je fais de la vidéo à côté et il y avait une vraie envie de partager le jeu de rôle autour de moi, de le faire découvrir et je me suis dit pourquoi pas peut-être justement proposer ce service-là sur Angers justement.
Ok, est-ce que tu as quel âge ?
J'ai 28 ans.
28 ans, ouais, donc ça fait un moment que tu fais du jeu de rôle. Est-ce que tu veux nous dire comment tu es venu au jeu de rôle justement ?
Alors ça passe par la BD justement, tu disais que tu parlais beaucoup de BD. Ça partait surtout de la BD puisque j'ai un grand fan et je suis toujours un grand fan de la saga L'Enfeuse de Troie.
Ok.
Qui du coup ont édité un jeu de rôle à l'époque, Les Aventures du Monde de Troie, et il me semble. Et en fait, quand j'étais petit, quand on a 13 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Et du coup, c'était 40 euros comme après tous les bouquins de jeux de rôle. Et en parallèle, j'ai découvert une autre saga qui s'appelle Le Donjon de Nullbuck et qui parle directement de jeux de rôle. Et du coup, je me sentais beaucoup plus projeté dans un univers de jeux de rôle vu qu'il y avait carrément des termes dedans. Et comme j'avais pas de référentiel, j'avais pas d'argent et je savais pas comment jouer, j'ai créé un jeu de rôle toute pièce en me disant ça doit marcher comme ça, on verra bien. Jusqu'à ce que l'année d'après, le jeu de rôle Nullbuck sorte du coup la première version du donjon de Nullbuck en ligne gratuite. J'ai tout imprimé et à partir de là, j'ai commencé à jouer au donjon de Nullbuck à fond jusqu'à découvrir d'autres jeux de rôle ensuite qui m'ont amené jusqu'à aujourd'hui Donjons et Dragons que j'ai découvert très récemment.
Ok, effectivement, c'est souvent les gens commençaient par Donjons et Dragons, mais
c'est l'inverse.
Tu redécouvres, ouais, c'est rigolo comme parcours. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler de certains jeux de rôle que tu as eu dans ton parcours et est-ce que tu as des jeux de rôle fétiches où tu es indécrottable, ce jeu-là, c'est vraiment le jeu auquel tu jouerais n'importe quand et avec n'importe qui.
Alors, je pense que j'aime bien bidouiller déjà des systèmes. Le Donjon and Buck, ça a été le nostalgique parce que c'est le premier qui m'a mis le pied à l'étrier. Puis en fait, plus on le découvre, plus on se rend compte des failles, plus on se rend compte qu'on peut faire plein d'autres choses. En cours de route, j'ai découvert Cthulhu. En cours de route, j'ai découvert INS MV, Innominé Satanis Mania Veritas.
Ouais.
J'ai découvert également Donjon et Dragon, mais vraiment très récemment, ça date de l'année dernière. Et par contre, maintenant, j'ai la tête dedans.
Tout fait à l'envers.
Rien de fou. J'ai vraiment tout fait à l'envers. Et j'ai découvert un petit peu plein de systèmes différents, des jeux de rôle qui sont parfois très très nichés ou parfois qui sont plus simples, plus mainstream un petit peu. Et donc je pense pas que j'ai un système fétiche parce que pour l'instant je suis à fond dans Donjons et Dragons parce que je suis dans ma découverte et qu'avec des copains on est en train de monter des campagnes et que on est très très axé là-dessus pour l'instant. Et celui auquel j'ai le plus joué c'est Nullbuck, mais maintenant je vois toutes les failles et du coup j'ai plus de mal à y retourner. Et donc j'aime bien essayer plein de trucs en vrai. Pour plein de systèmes différents, pour des trucs plus d'intrigue ou d'enquête, j'aime bien Cthulhu. J'aime bien les systèmes au dessin ou comme Aria aussi de Fibre Tigre.
Ouais.
Et pour du combat, etc. Là en ce moment je suis dans la phase Donjon Dragon, je suis en train de tout découvrir donc.
Ok. Et du coup t'as pas en fait un jeu vraiment fétiche.
Celui auquel j'ai le plus joué, c'est vraiment Nullbuck. Mais on l'a tellement modifié aussi avec mes joueurs pour correspondre un peu plus, pour pallier un petit peu à tout ce qui manquait et pour avoir moins l'aspect purement comique et purement goofy de Nullbuck où c'est des bras cassés et tendre un peu plus à ce qui se fait au final dans Donjons et Dragons. Donc en ce moment, je dirais Donjons et Dragons, mais je sais qu'il y a plein de jeux qui m'attirent. Donc globalement, c'est peut-être celui dont Donjons et Dragons actuellement où aussi ça peut être adaptable à plein de sauces différentes. Il y a tellement de contenu sur internet que du coup il est facilement modulable où du coup on peut découvrir plein d'éléments homebrew fait maison de partout. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai pas trop retrouvé sur les autres jeux. Donc je pense qu'en ce moment je dirais Donjons et Dragons.
Ok. J'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a vraiment une différenciation dans ta tête entre la partie univers et la partie système de jeu. Est-ce que tu trouves que tu as des univers qui sont excellents avec des systèmes de jeu très pourris et des systèmes de jeu qui sont excellents avec des univers qui sont pas top ?
Je me suis déjà retrouvé face à des systèmes où j'ai eu du mal et je comprenais pas trop. Et pour moi, en fait, j'aime beaucoup la narration. Et en même temps, j'ai eu des joueurs qui étaient très axés au système de jeu. Et donc, ça te force aussi à avoir cette rigueur-là et avoir cet aspect très ludique. Donc, ça dépend. Moi, je suis plus système, puis l'univers, et c'est assez différent. Et en fait, fatalement, quand tu travailles à fond sur une campagne ou sur un truc, tu te rends compte que les deux vont être très liés. Donc, t'es obligé de faire en sorte qu'il y ait un certain raccord. Donc, de base, je pense à différencier vraiment, dissocier les deux. Et je me suis complètement éloigné de la question, pardon.
Non, mais c'était exactement la question. Hein. Est-ce qu'effectivement on pouvait avoir les deux, les dissocier ou pas et
Pour moi, ça dépend. Mais c'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans ces situations où il y a des systèmes qui étaient un peu trop lourds. Je me souviens de ma découverte de Shan Renaissance, où j'avais acheté du coup, donc c'était une réédition en tout cas des premiers Shan, qui l'univers m'avait vraiment vendu beaucoup de rêves. Et en fait, le système m'a vraiment mis une claque de je comprends rien. Et Shan en particulier, j'étais ah, je comprends pas Shan. Non.
Comment ça marche? Et du coup, comment on passe de rôliste joueur à rôliste maître de jeu et à ton activité?
Comment on passe de rôliste joueur à maître du jeu? Ben, je pense en fait, c'est fatalement le maître du jeu. Souvent, on le devient un peu parce que dans son entourage, pas grand monde fait maître du jeu ou parce qu'on a envie de jouer et que personne va lancer l'initiative. Bon, en tout cas, c'est souvent mon expérience de la malédiction du MJ éternel.
Ouais, je connais très très bien.
Ben voilà, et du coup, personne veut le faire, donc on va s'intéresser, on va le faire, et du coup, fatalement, on devient maître du jeu. Et pour moi, une vraie fierté en vrai, c'est quand un joueur de notre table justement se dit ah moi j'ai peut-être un truc à proposer et je vais faire maître du jeu. Là, c'est l'occasion de nous de passer en joueur. Quand un joueur veut sauter le pas et devenir maître du jeu et proposer quelque chose, je trouve ça trop bien parce que ça veut dire que ça a suffisamment allumé une étincelle dans l'imagination ou dans l'inspiration en tout cas des joueurs.
Mais pour que la personne ait envie de se lancer plus loin quoi.
Voilà, exactement. Et du coup, Time to Roll, pour moi, ça dresse plus à des gens qui voient ce que c'est l'activité, voient ce que c'est le jeu de rôle, ont pas encore sauté le cap parce qu'ils savent pas trop vers qui se tourner, parce que ils ont vu ça dans Stranger Things ou dans d'autres films ou d'autres endroits, en tout cas d'autres médias, et en fait qui voudraient découvrir mais qui ont pas de repères. Pour moi, Time to Roll, ça peut s'adresser aux rôlistes, avec plaisir je reçois des rôlistes vraiment, mais la formule, je pense, je la pousse vraiment pour essayer de le faire découvrir en fait autour de moi, parce que je suis sûr que cette activité en fait elle peut plaire à tellement de monde. C'est très très niché et pour moi ça peut être très très grand public parce qu'en fait c'est de l'imagination. On a tous des référents, on aime tous avoir des histoires à raconter et vivre des histoires, et c'est vraiment cet aspect là que j'ai envie de mettre en avant dans Time to Roll, leur montrer de regarder, c'est trop bien. Et pour moi c'est pas lié au système forcément, c'est l'activité du jeu de rôle qui permet ça.
Ok, donc ta clientèle, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ou vraiment très peu?
En tout cas, ça s'adresse un peu plus à ça, parce que l'idée, moi, c'est d'être un peu plus dans un accès plus accessible, plus ouvert pour ceux qui n'ont du coup pas mille pieds à l'étrier, justement, qui ne connaissent pas trop, avec des systèmes assez simplifiés. Si jamais la table se rend compte qu'ils aiment bien les systèmes un peu poussés, pas de souci, je peux développer un petit peu le système. C'est vraiment du Donjon Dragon très très simplifié et que j'ai un petit peu tourné à ma sauce pour parfois simplifier des termes ou juste des mécaniques. Mais l'idée, c'est vraiment de venir proposer une première expérience de jeu de rôle, ouais. Et si jamais vous êtes déjà rôliste, vous allez avoir toutes les refs de comment fonctionne le système. Donc mon scénario, il y a pas de souci, s'adapte pour vous. C'est juste que du coup, vous allez avoir plus de repères et donc vous allez mieux utiliser les mécaniques, les sorts ou la réflexion de ah mais si lui il m'a dit ça là, ça veut peut-être dire, parce que forcément il y a des liens entre plein de trucs, il y a des intrigues. C'est juste en termes de d'aisance. Bah, on va parler entre rôlistes. Ouais. Mais le scénario de base, il s'ouvre aussi aux débutants, il n'y a pas de souci.
La fluidité ne sera pas la même. Ouais.
Voilà, exactement.
Ok. Et du coup, comment ça se passe? Si on veut faire appel à toi, à quoi on peut s'attendre?
Alors, en fait, il faut aller sur timetoroll.fr,
okay.
Du coup, mon site internet, qui va proposer tout de suite déjà un descriptif du concept, de ce que c'est Time to Roll, et dans quelle mesure, du coup, je délivre des parties de jeux de rôle, et va vous proposer trois univers différents. Donc, il y a un univers heroic fantasy, un univers de science-fiction, et un univers plus cartoonesque, où on va incarner des aliments. Et okay. Voilà, qui est complètement beaucoup plus absurde, mais très grand public aussi, parce que tout le monde voit ce que c'est une tomate, donc tout le monde peut regarder une tomate. Et donc il suffit juste de cliquer sur l'univers qui vous tente, en tout cas. Et ensuite il y a toutes les dispos qui sont indiquées sur un calendrier, vous bookez un rendez-vous, voilà, comme sur un Calendly, comme on peut booker un rendez-vous chez le coiffeur ou un escape game.
Okay.
Même principe. Et ensuite, moi, je viendrai avec environ 10 minutes d'avance, le temps de juste installer la table, sortir les petites affaires et faire un premier accompagnement, en tout cas explicatif de qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite concrètement, par quoi ça se traduit, et ensuite présenter les personnages et ensuite rentrer dans l'aventure avec la petite musique de fond et l'aventure qui se déroule.
Bah, parfait. Les univers que tu proposes, c'est des... Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait du Donjons et Dragons.
C'est de l'Heroic Fantasy. Le okay. système, c'est du Donjons et Dragons simplifié. Parce que je me suis dit, il faut que ce soit un système qui roule, qui soit équilibré, surtout. Et donc, du coup, quoi de mieux que celui qui est la référence ultime, justement. Mais du coup, en simplifiant, j'ai enlevé beaucoup de règles que je trouvais superflues pour rentrer très vite dans une partie. Où juste, il y a les caractéristiques, il y a quelques compétences. Et du coup, le principe que j'explique, c'est, vous voyez, vous avez un dé, vous avez des bonus, en gros. Et certaines épreuves vont vous rajouter, il faut atteindre un certain score pour réussir. Tout simplement. Et ça part sur ce truc-là. Et il y a des sorts qui se rajoutent, etc. Pour garder un système très simple, très accessible. Et qui permet de jouer. Donc, du coup, dans un des univers, c'est Heroic Fantasy. Et donc, du coup, ça se rapproche du Donjon Dragon. C'est vraiment la promesse. Si vous voulez faire du Donjon Dragon, c'est le scénario, en tout cas, qui s'y prête le plus.
C'est le même système sur les trois scénarios ?
Non, pas sur fruits et légumes.
Ok.
Fruits et légumes, c'est je dis fruits et légumes parce que c'est très fortement inspiré d'une émission qui n'existe plus malheureusement, de Donjons et Jambon, qui était une émission par Tale of Pi, qui était okay. Une émission sur j'ai mangé le nom sur Twitch en tout cas, où ils faisaient une émission, mais il y a 10 ans maintenant, 10-12 ans. Et le jeu, en tout cas moi, beaucoup marqué. On y a beaucoup joué avec des amis. Et jusqu'à ce que je développe un peu un système et un petit truc très simple. C'est vraiment fait pour du one shot, pour faire une partie. Et si jamais, il y a une campagne, hein, si vous voulez, de supermarket. Donc ça s'appelle Supermarket. En soi.
Okay.
Ça se passe dans le royaume de Grand Market. Donc les deux, c'est du Donjons et Dragons, science-fiction et Heroic Fantasy, mais modifié pour que ça colle à l'univers. Et sinon, Supermarket, c'est un système à part, plus simple encore. Juste en pourcentage.
D'accord. Une partie Time to Roll, c'est combien de temps? Combien de joueurs?
Une partie de base, c'est 2 heures. Ça okay. se vaut 2 heures. Pour moi, c'est, faut pas effrayer du coup ceux qui ne connaissent pas, parce que du coup, plus ça peut faire un peu long. Et en même temps, en dessous, je trouve qu'on n'a pas le temps de raconter une histoire qui va avoir plusieurs chapitres, qui va avoir vraiment tout un déroulé. En tout cas, on va avoir des choses à raconter à la fin de OK, on a vécu tout ça là en 2 heures. C'était l'équilibre, mais il est tout à fait possible de booker plus. Booker okay. plus, voilà, y a une page tarif. Et session qui explique, voilà, ça c'est la partie de base. Il est possible de booker une campagne. Si vous voulez, tous les scénarios sont des premiers chapitres de campagne potentielle. Si jamais, hop, l'histoire est bouclée, mais par contre, c'est le premier chapitre de potentiellement une grande aventure. Et dans ce cas-là, il y a un tarif, du coup, réduit qui s'applique. Ou du coup, plutôt que de payer la session unique, justement, on peut partir sur une campagne. Et dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier d'un tarif réduit, justement, sur toutes les sessions que vous bookez. Et qu'il n'y a pas d'échéancier. C'est à partir du moment où vous bookez une campagne, après, c'est moins cher.
Ok. Combien de joueurs?
Jusqu'à 6 joueurs.
Ok. Et sur ta tarification, tu as une tarification à la session ou une tarification à joueurs?
À la session. Ouais. Pour l'instant, je tarifie comme ça, de sorte à ce que je m'y retrouve en termes de frais et en même temps que les joueurs, ça ne fasse pas trop cher. Pour l'instant, c'est 80 euros la séance, jusqu'à 6 joueurs, donc juste on divise en tout cas. Et on divise, et ensuite, tout simplement en fait. Donc jusqu'à 6 joueurs, c'est 80 euros, c'est fixe. Et moi, comme ça, je rentre dans mes frais, c'est plus simple pour juste calculer en fait un petit peu tout le déroulé.
Bah, c'est le but, hein, j'imagine. Mmh. Ok. Tu parlais du site timetoroll.fr, c'est
ouais.
ça?
Ouais.
Donc c'est là où on va trouver toutes les infos.
Ouais.
Et il y a quoi comme, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Est-ce que tu as des exemples en fait de parties de mastering, de vidéos, des choses comme ça?
Ouais. J'ai eu la chance de, il y a quelques années, de faire MJ pour une partie pour la chaîne YouTube de youtubeur Amixem, qui est un youtubeur angevin.
Ok.
Où en fait j'ai travaillé chez eux pendant 3 ans en tant que monteur et cadreur. Et fatalement, je suis un rôliste passionné, donc j'ai été amené à en parler, à en discuter autour de moi, jusqu'à leur faire essayer du coup aux collègues. Et en fait, ça a beaucoup plu donc à Mixem. Et il m'a dit non, mais il y a un potentiel vraiment, vraiment très, très fort avec le jeu de rôle. J'ai envie qu'on fasse une partie. Et 2 semaines après, il y a un tournage qui a été bloqué, donc j'ai écrit une partie et on a fait une série. Donc si vous tapez Mixem JDR, Vous allez voir une vidéo de 1 heure. C'est une session de 4-5 heures qui a été compilée en 1 heure. Et vous verrez ma tête. C'était il y a 3-4 ans.
Ouais. Ok.
Et du coup, ça peut vous donner une bonne idée, ouais, de dérouler de partie à ma table, en tout cas.
Est-ce qu'il y a des choses, si jamais tu voulais inviter les gens à faire du jeu de rôle ou à faire appel à toi en tant que MJ, en quelques mots, une catchphrase, une punchline
En quelques mots, le jeu de rôle, c'est raconter des histoires tous ensemble avec ses amis. On se pose autour d'une table, on mange des pizzas, on passe un bon moment, et le but, c'est de s'amuser tous ensemble. Donc, pourquoi pas vous, en fait.
C'est noté. Simple. Il faut. Tes actus, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu veux parler, que ce soit Time to Roll ou d'autres actus que tu aurais professionnellement parlant?
Surtout Time to Roll, en fait. Là, justement, j'essaye de petit à petit monter Time to Roll, parce que du coup, j'ai toujours mon activité professionnelle à côté. Et l'objectif, c'est de faire découvrir autour de moi, tranquillement, Time to Roll, justement, petit à petit. Si jamais, j'expliquais ça tout à l'heure, pardon, il y a un de mes scénarios, justement, le scénario Heroic Fantasy, qui se passe, qui s'appelle Les Échos du Givre, qui se passe dans un environnement assez enneigé. Si jamais vous voulez essayer un petit peu cette ambiance, un peu à la Au-delà du mur de Game of Thrones, un petit peu dans les montagnes, etc., bah, profitez-en, parce que je vais bientôt changer le scénario pour quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus joyeux. Donc si vous aimez bien les ambiances un petit peu sombres, un petit peu justement d'enquête et de survie un peu dans l'univers enneigé, bah, du coup il va bientôt être changé par un autre scénario qui va se passer du coup dans un port avec des pirates, des marchands, et qui va commencer avec une enquête qui va commencer dans un restaurant.
Ok.
Ce qui n'a rien à voir.
Eh ben, n'hésitez pas à faire appel à Quentin et Time to Roll pour découvrir le jeu de rôle. Si, une petite question que je t'ai pas posée. Tu t'es jamais retrouvé face à des gens qui voulaient découvrir le jeu de rôle et qui, au final, en quelques minutes, se sont dit « Ah ouais, non, en fait, c'est pas ça qu'on veut ».
Ça m'est jamais arrivé. Il y a souvent plus des gens qui peuvent être un peu frileux au début et qui arrivent pas à rentrer. Ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens qui ne rentrent pas du tout dans le roleplay, par exemple. Et qui vont être très très ludistes, très très. Ah non, mon personnage, je peux faire ça, je veux faire ça. J'ai déjà eu des sessions où les joueurs n'avaient pas nommé leur personnage. Ah non non, moi je suis un barde, je fais ça. Et donc du coup, l'idée, c'est plus de les accompagner pour essayer de leur faire découvrir un petit peu le RP. Après, s'ils sont pas à l'aise, je vais pas les forcer, mais plus pour essayer de leur faire découvrir un peu cet aspect-là. Mais ça peut plus, c'est plus souvent arrivé d'avoir des gens plus frileux au début, qui savent pas trop dans quoi ils s'engagent. Globalement, j'ai eu de la chance, toutes les parties se sont soldées avec tout le monde passe un bon moment, et à la fin, oh, c'était trop drôle. On a pas son bois. Donc okay. Je touche du bois pour l'instant.
Est-ce que tu aurais un petit tips à donner aux auditeurs qui veulent découvrir le jeu de rôle pour incarner leur personnage, et éventuellement aux auditeurs qui voudraient devenir maître de jeu?
Pour ceux qui veulent devenir maître du jeu, pour moi vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est vraiment faire en sorte que tout le monde passe un bon moment autour de la table. Donc ça peut passer pour vous par énormément de préparation, parfois ça peut être complètement improvisé, mais il faut jamais oublier que on a tous booké du temps pour jouer tous ensemble. Donc c'est cool si tout le monde peut briller un moment, si tout le monde s'amuse. Ça veut pas dire oui à tout et leur faire tout gagner, juste c'est important d'essayer de rappeler un peu cet élément là pour pas pour juste être un peu garant du fun de tout le monde, je dirais. C'est à partir du moment où il y a ça, peu importe le système, pour moi, peu importe l'univers, c'est le jeu de rôle. Donc pour moi, faut vraiment qu'il y ait cette notion de A à Z, où faut qu'il y ait du fun, faut qu'on ait passé un bon moment, en fait.
Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Quentin.
Merci beaucoup, Seb.
Je te laisse redonner les références de ton site.
Ouais, alors c'est timetoroll.fr, et vous pouvez aussi me retrouver sur Insta avec timetoroll.jdr ou sur Facebook à timetoroll.
Eh ben parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, je suis en direct de Langer Geek Fest et je suis sur le stand de Dame Ina, qui propose pas mal de dés. Bonjour Dame Ina.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je trouve devant moi?
Alors, ce que vous avez devant vous, c'est des potions magiques avec dedans un petit dé qui va du D4 au D100. Et j'ai même des potions où on répond à nos questions. Questions fermées par oui, non et peut-être. Histoire d'avoir tous les dés possibles et imaginables.
Ces potions, elles sont magiques et visuelles?
Elles sont très visuelles, en fait. J'ai toute une palette de couleurs, vu que je fais que de l'unitaire. C'est vraiment unique. Du coup, elles ont une couleur. Par exemple, elles sont bleues, et quand vous la secouez, on retrouve des paillettes, et elles changent de couleur. Elle va passer violette, ou elle va rester rouge, mais elle va passer sur un rouge très sombre ou très rosé. Ça va dépendre, en fait, vu que c'est que unique. Eh bien, on a une palette incroyable. Voilà, et dessus vous avez de la cire qui, pareil, va être colorée. vous pouvez trouver toutes les couleurs possibles parce que je fais aussi des mélanges. Donc pareil, on va retrouver du gris avec du bleu, un bleu éclatant avec quelques paillettes dessus. Et surtout, j'appose dessus des sauts. Ça peut être du dragon, ça peut être du poulpe, ça peut être juste des chiffres. Et j'ai plus de 25 références actuellement de sauts. Vu que je ne fais que de l'unique, toujours, oui, je répète, parce qu'elles sont vraiment uniques et que je passe un temps fou à vous les créer, avec tout le plaisir du monde. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Elles sont doublement uniques parce qu'on peut aussi choisir l'étiquette sur, qu'on va avoir sur notre peau.
Exactement, pareil, j'ai une référence d'étiquette de... je crois que j'en ai 40, histoire de ne pas refaire tout le monde. On va de la potion simple de mana jusqu'à de l'élixir de damné. J'ai la chance de travailler avec des illustratrices actuellement pour faire les designs. Dont Mitsuko Swan qui est actuellement présente sur le salon Orange Geek Fest, que vous allez trouver dans l'aile de manga. Et aussi Aksupi, qui elle est par contre à la NorthCon, un peu loin au Havre. Voilà. Et j'adore travailler avec ces personnes qui m'accompagnent au quotidien, du coup, et vous aussi dans vos campagnes, en embellissant vos potions que vous choisissez sur le place directement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces potions-là?
Alors, j'ai vu une fois une vidéo, il y avait des paillettes et il y avait un dé dedans. Du coup, c'était magique et je voulais absolument la mienne. Et à ce moment-là, ça n'existait qu'aux USA. Et du coup, bah, c'était un peu loin. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer. Et après un an de travail acharné pour trouver la solution magique, le design qui me plaisait à moi et rien qu'à moi, j'en suis venue à créer pour les copains. Et puis, bah, ça a fui. Et du coup, bah, je me suis lancée tout simplement. Et étant une Dice Globline confirmée, je ne fais pas que ça aussi. Je me suis mise à créer des dés et étant une gaz moupline, bah, on y va jusqu'au bout des doigts et je crée aussi des bijoux avec des dés que je crée moi-même ou aussi avec des mini-dés que je perce et monte sur des parures toutes différentes, du style baroque, un peu de steampunk, des fleurs parce qu'on est au printemps et que bah, il faut apporter de la couleur dans la vie et toujours de plus de paillettes. Voilà.
Donc on peut retrouver sur votre stand des dés, on peut retrouver des bijoux à base de dés, des potions à base de dés. Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, on va s'arrêter là parce que ça fait vraiment beaucoup. Ah, pardon, si, petite nouveauté qui vient d'arriver, nous avons des marque-pages aussi avec des dés parce que bah, tout rôliste qui soit en général lit. Et puis il faut lire nos règles. Ah, pardon, excusez-moi, nos livres de règles. Donc du coup, c'est important d'avoir un petit marque-page pour se repérer. Oui, je vous pousse à l'achat.
Effectivement. Petite question, en dehors de vos produits, est-ce qu'il y a un jeu de rôle qui vous plaît plus que tout? C'est votre jeu de rôle chouchou?
Mon jeu de rôle chouchou, c'est le premier, c'est Donjons et Dragons 3x5 pour le coup. Et voilà, ça reste mon donjon de... Enfin, le jeu de rôle de cœur, et j'y reviendrai avec grand plaisir dès que j'aurai du temps, parce que j'en ai plus. Mais le lancer de dés est ma vie.
Où est-ce qu'on peut vous trouver si on veut des infos sur vos produits ou vous en acheter en direct?
Alors, retrouvez-moi surtout sur Instagram, c'est là où je vais être le plus actif. Vous avez quelques produits que je vous montre. Un jour viendra le site internet, il est en cours. Donc, quand il sera lancé, il sera aussi disponible via Instagram. Si vous avez des commandes, si vous souhaitez votre propre potion, où on pousse le vis et on y va à fond les ballons et on custom tout, votre étiquette, c'est votre étiquette, on passe par votre design à vous, on fait appel à des gens pour les créer s'il les faut. J'aime bien faire bosser les copains. Vous me contactez directement sur Instagram ou par mail et là, vous allez avoir toute une fiche, on va faire des tests jusqu'à trouver la création qui vous plaît. Et voilà, et c'est donnez-moi du travail parce que franchement, faire votre projet, savoir pourquoi vous voulez cette couleur, pourquoi, pour quel type de jeu, ben voilà, vous me racontez de vos histoires et c'est génial parce que c'est ça le jeu de rôle, on partage quelque chose et on fait une campagne, on s'accompagne vraiment. Et faites-moi vivre.
Et est-ce qu'on peut avoir la recette d'une potion?
Alors, on a de l'encre où vous avez des paillettes. Les paillettes, c'est du mica. Par contre, la solution, je ne vous la donnerai pas, mais si vous êtes doué, il y a la poussée d'Archimède dedans. Faites vos recherches, vous allez trouver.
Merci beaucoup, madame Ina.
Merci à vous, et puis bonne continuation, bon jet de dés, des réussites critiques à gogo, et amusons-nous.
J'ai toujours une petite question déjà de départ. Qui es-tu?
Ah, qui je suis? Un rôliste.
Un rôliste.
Je suis un rôliste, mais je pense que t'es un rôliste aussi, si je suis là.
Ouais. effectivement, on est dans l'émission justement pour parler de tes jeux de rôle et des jeux de rôle que tu as créés. Mais avant ça, j'ai une question que je trouve... je suis très curieux. Pourquoi autant de i dans ton prénom?
Ah, mais ça c'est une histoire. Hein. C'est il y a vraiment deux raisons. Ouais, hein. Je la raconte souvent, mais il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai fait une campagne de Simbaroom. Okay. Et je jouais un troll qui s'appelait Kranks. Et Kranks, il était pas très futé. Par contre, quand il parlait, il donnait des coups surtout. Voilà. Et Kranks, en fait, le poids des morts était de plus en plus dur pour lui. Et je trouvais ça rigolo de rajouter un X à Kranks chaque fois qu'il tuait quelqu'un.
Okay.
Donc il s'appelait Kranks à la fin. Et au bout d'une campagne d'une vingtaine d'aventures, Kranks, il avait beaucoup de mal. Et j'avais adoré ce personnage et le jeu à la table. Et ce X qui s'ajoutait, ça m'a clairement influencé sur le nombre de i. Et quand j'ai commencé à communiquer, en fait, Xavier s'est pris partout. Mais Xavier, oui, avec 4 i, c'était pas pris. Et donc, il y a une unité sur les différents réseaux sociaux pour avoir le même pseudo. Voilà, simplement.
Et tu t'es jamais retrouvé coincé sur un type qui avait mis aussi d'autres i
J'espère pas, pour l'instant, non.
T'es un rôliste depuis combien de temps?
Oh, ça va faire 35 ans.
35 ans?
Ouais, je suis tombé dedans fin collège. Ouais.
Ok. Et est-ce qu'il y a, au cours de ta carrière de rôliste, un jeu qui t'a marqué particulièrement, dont tu restes indécrottable?
Alors, il y a des jeux qui m'ont marqué et qui m'ont très fortement influencé de la manière dont je joue, j'écris, etc. Clairement, Cthulhu, ça a été mon premier jeu. Je suis tombé dedans. J'ai adoré, j'ai découvert un univers de jeux de rôle incroyable, hein, qui mêlait en fait la création et jouer en même temps. Voilà, même si c'était de la création de scénario, on parlait pas d'édition ou de choses comme ça, mais créer, j'ai toujours adoré et j'ai trouvé ça. Donc Toulouse, ça m'a vraiment formaté un peu sur l'enquête, sur les choses comme ça. Et Vampire, ça m'a... J'ai avec un peu de roleplay théâtral... Voilà, parce qu'à l'époque, j'avais un MJ incroyable qui nous faisait faire les scènes debout. Quand on voyait le prince, on était debout dans la salle devant lui. Et donc, okay. Ouais, et une vision de jeu à scène. Tu vois, quand moi j'écris aujourd'hui un scénario, c'est avant tout une scène que j'ai envie de faire jouer aux joueurs, que je relis. Mais ça m'a marqué. Et plus récemment, Brindlewood Bay. Voilà, l'émergence. Des jeux à émergence, enquêtes émergentes où je pensais qu'on pouvait pas improviser de l'enquête. Et en fait, on peut improviser de l'enquête complètement. Il y a des mécaniques de jeu, du game design, et là, ça a changé aussi ma vision d'écriture et de l'enquête. Voilà, je ne veux plus lire des enquêtes à 500 pages.
Tu peux me détailler un petit peu? Je connais pas ce jeu.
Brindlewood Bay, c'est un jeu américain de Cordova. C'est le nom, ceux qui connaissent corrigeront. Vincent Cordova, je crois, voilà. Bon, quelque chose comme ça, et qui a été traduit par Gulix en France, et on joue des petites grand-mères, un peu à la Agatha Christie.
Okay.
Et tout le principe du jeu, c'est que le MJ qui masterise ne connaît pas le coupable, mais elles vont quand même enquêter. Et en fait, il a plutôt des listes de lieux, de personnes, de suspects, et les joueurs, par leur interprétation, vont relier les indices au coupable, et à la fin, ils vont en déduire. À la Agatha Christie, où il y a tous les protagonistes là, ils vont dire c'est lui le coupable pour telle raison.
C'est un Cluedo en jeu de rôle, quoi.
C'est un Cluedo en jeu de rôle, mais en fait c'est très très bien game designé, où si les joueurs ne savent pas, eh ben on peut s'y faire prendre que finalement l'enquête elle est très cohérente, alors que tout est émergent en fait.
Ok.
Ouais, et j'ai adoré, et j'écris la moitié de mes scénars des Miaulements d'Ulthar comme ça.
Ok,
mais finalement c'est aussi de l'impro guidée, toi. C'est pas sans filet.
Oui, il y a un fil rouge.
Il y a un fil rouge. Il y a des indices. Mais l'idée du truc, c'est que les indices, c'est les joueurs qui s'en emparent en vrai et qui vont en déduire des choses. Voilà.
Ok.
Ces jeux-là ont changé ma vision. Voilà. Mais vraiment profondément, parce que je joue comme ça maintenant.
Eh ben, je vais essayer de découvrir ça. Du coup, tu es auto-éditeur de jeux de rôle, mais dans la vraie vie, tu fais quoi ?
Dans la vraie vie, je suis informaticien.
Ok.
Voilà, donc je travaille beaucoup sur les outils informatiques et j'ai une passion dévorante qui est le jeu de rôle. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'édition avec ton premier jeu qui était The Caravan ?
The Caravan en 2019, oui. En fait, depuis que j'ai fait du jeu de rôle, mais j'ai masterisé après à ma deuxième partie. À 15 ans, on m'a dit, bah tiens, vas-y, sois MJ toi aussi. Et on m'a donné entre les mains JRTM. Donc, j'avais jamais lu Tolkien.
Très simple.
Mais très simple. Vraiment, aujourd'hui, je me dis, ça n'avait rien à voir ce que je faisais. Mais ce qui m'a... Depuis que je joue au jeu de rôle, j'écris. Je fais des scénars, je fais des campagnes, je fais des règles, je fais des univers, tout ça. Et c'est plutôt la question, c'est comment j'ai pu passer du gribouillage... voilà. Et j'avais un peu une espèce de symptôme, au bout de 50 pages, 70 pages, j'étais incapable de continuer. Et donc, pendant 20 ans, j'ai essayé de d'écrire quelque chose de complet, et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. 70 pages, c'était mon maximum. Et puis, un jour, j'ai découvert Morgborg.
Ok.
Et c'est un pote, Sébastien, je peux le remercier, vraiment, parce qu'il m'a dit, t'aimes bien les jeux qui flashent et qui piquent aux yeux et qui un peu déjanté, tu vas voir, ça va te plaire. Et en fait, j'ai vu que en 100 pages, à 5, on pouvait faire un jeu. Et en fait, avant, je voulais faire des jeux encyclopédiques. Des jeux où on décrivait tout l'or, tous les lieux. Alors que Morgborg, en 100 pages, il y a un univers, il y a une proposition assez forte. Et en fait, le jour où j'ai vu Morgborg, j'ai un peu étudié Morgborg comme un prof, hein, vraiment de manière universitaire, comment il avait construit les choses, comment les choses étaient faites pour donner un univers jouable sur 100 pages. Et puis, bah, 2 ans après, je sortais Caravane. Voilà. Et j'ai eu de la chance, il y a eu le Covid, ça a aidé un petit peu.
Oui.
Et j'ai rencontré sur Discord des gens qui étaient passés avant moi par le financement participatif. Donc vraiment, tout ça, ça a coïncidé. Et voilà, et la preuve, je continue, j'adore ça.
Alors, il y aura plusieurs questions qui vont venir, mais avant, est-ce que tu peux parler de Caravane, détailler un petit peu ce premier projet, l'accueil public, et puis ce que tu en as tiré comme expérience?
Une vraie aventure humaine, en fait. J'ai vraiment découvert des gens qui ont adoré le jeu, en fait. Alors, c'est pas un jeu qui va faire comme des dessins, des millions, mais un jeu à émotion, voilà. C'est un jeu à émotion, et vraiment, je suis tombé dans le plaisir d'écrire et de proposer quelque chose de poussé. Voilà. Et donc, Caravane, on va jouer des enfants qui ont entre 14, 15, 16 ans. C'est pas du tout un simulateur d'enfants, mais c'est tout pour montrer soit cette innocence, soit le fait qu'ils sont en bas de l'échelle pour accentuer ça. Ça joue dans du dark fantasy assez dur. Et ces enfants vont être recueillis par une caravane avec que des enfants qui ne devraient pas survivre. Et cette caravane s'arrête parfois près d'un village, d'un lieu, et il y a une sorcière qui apparaît, qui s'appelle la Mama, qu'on comprend pas trop d'où elle vient. On pense un peu au bout d'un certain temps qu'elle est responsable un peu de ce malheur. Et puis cette sorcière, cette Mama, donne des masques à ses enfants et ça les transforme en monstres. Et à partir de là, ils sont en haut de l'échelle. Et la Mama va les envoyer dans le village. Elle va leur dire pas grand chose. Allez dans ce village, trouvez un demandeur qui a besoin d'aide. Acceptez cette demande et aidez-le. Mais à la fin, ramenez-moi un don. Et en fait, c'est un jeu dark fantasy parce que, en fait, tu joues en haut de l'échelle, mais tout tes choix auront une conséquence. Sans connaître les règles de l'univers, sans connaître les règles de ce masque et de cette transformation. Ce qui est sûr, c'est que les gens en face, maintenant, ont peur de toi. Voilà. C'est ça un peu le pitch du jeu. C'est un jeu assez dur et poétique en même temps, parce que comme il est dur, eh ben, les joueurs, naturellement, ils vont amener une espèce de lumière. Là, Tim Burton m'a clairement inspiré. Voilà, j'adore Tim Burton, ses réalisations. Voilà.
Un jeu... où on joue des enfants, mais pas pour les enfants, du coup.
Pas du tout pour les enfants. J'ai fait quelques tests avec les enfants en enlevant le côté dur pour tester si les scénarios que je proposais étaient faisables avec un intellect d'un enfant de 14, 13 ans, voilà, pour valider un peu l'âge. Et bon, ils sont très forts, ils y arrivent. Par contre, ils sont beaucoup moins patients que les adultes, ils frappent tout de suite. Donc là, finalement, ils font pire que les adultes. Mais un jeu pour adultes, voilà. Et j'ai adoré, en fait, cette relation entre les gens qui jouaient, qui ramontaient des tonnes d'idées. Et j'ai vraiment adoré ça. Voilà.
Et pourquoi le financement participatif et qu'est-ce que ça a pu t'apporter?
Bah, simplement, en fait, c'est que faire connaître son jeu, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de jeux. Et se faire connaître aujourd'hui, à travers un financement participatif, déjà, on a une lumière qui s'allume sur notre jeu. Donc, des fois, on reproche aux grosses boîtes de passer par des financements, mais en fait, sans ça, ils seraient un peu moins connus. Voilà. Et donc, un financement, c'est se faire connaître. On est au même niveau que, je parle pas de la qualité du contenu, mais d'une grosse boîte. On est sur la même plateforme. On est à côté d'eux. Voilà.
Il y a la même visibilité qu'un ADD.
Exactement. Oui. Voilà. Il n'y a pas le même,
pas le même budget, je pense. Mais
voilà. Mais voilà. Donc aujourd'hui, être en auto-édition sans financement participatif, j'ai des copains qui font ça. Maintenant que j'ai découvert, comme je côtoie d'autres auteurs maintenant, bah, ils le font pas. Mais c'est dommage, hein, parce que ils ont des très 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 bons jeux, mais ils ont pas de lumière sur leur jeu, en fait.
Ouais, le financement participatif, c'est vraiment la visibilité,
ouais,
en fait.
De la lumière, ouais. Okay. Et en même temps, ça valide ton projet, voilà. Tu te dis, moi, mon projet, j'ai besoin de 3000 euros, 5000 euros. Bah, tant que t'as pas 5000 euros, tu dois rien à personne. Voilà. Et ça, c'est assez appréciable.
La réception publique de The Caravan, parce qu'il y a le financement participatif, ouais, et puis il y a l'après. Qu'est-ce que ça...
Bah, j'ai ma petite communauté, en fait, de fans de Caravan, qui attendent une suite, qui attendent qu'on plein de questions sur les choses, et c'est ouais, il y a une petite communauté, un petit Discord qui fonctionne, qui ça a sa petite vie, et voilà, aujourd'hui j'ai une petite communauté, voilà, c'est très agréable, et puis ça fonctionne, ouais, ouais.
Est-ce qu'il y aura une suite du
oui,
coup à Caravan?
Oui, il y a une suite qui est prévue, il y a une vraie campagne avec un vrai méchant, voilà, aujourd'hui okay. Il y a une campagne que j'ai déjà écrite, qui est distribuée, mais c'est une campagne auto-centrée sur les joueurs. Voilà. Et alors que je veux une vraie campagne après avec un vrai méchant. Voilà. Faudra, et ça, c'est écrit, voilà, le scénario, en cas, la trame, elle est prête. Maintenant, il faut trouver du temps pour l'écrire. Voilà. Oui. Et j'ai même prévu un add-on après, 200 ans après. Voilà. Une fois que la mama est morte.
Bon, d'accord. Un gros gap à passer.
Ouais, un gros gap, voilà. L'année dernière, avec quelqu'un qui avait joué, il avait adoré et on a discuté des heures et des heures la nuit. Et tout ça, ça m'a bien éclairci. Ouais, ouais, tout ça, c'est du temps maintenant.
Oui, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système de jeu de The Caravan?
The Caravan, c'est un système qui laisse place en fait à la narration. J'aime bien les règles, j'aime bien le game design. Donc il y a quand même des dés, il y a tout ça. Donc c'est du D6 à la base. Quand on joue à un enfant, on a des D4, mais quand on est transformé en chuchoteur, en monstre, on a des D6 plusieurs. Et l'idée, c'est alors attention pour être précis, c'est un hack de Cthulhu Dark, traduction du Grumph. Donc on lance des D6 qui sont correspond, on lance autant de D6 de dés qu'on a de traits qui justifient un avantage. Donc, on est par exemple courageux, bah on peut dire, bah moi j'y vais, j'ai pas peur. Ok, bon, tu lances un dé de plus. Mais je suis sur une pierre, hein, ils m'ont pas vu arriver. Ah, très bien, c'est un dé de plus. Et on va lancer une boîte de dés comme ça. Habituellement, on lance 2, 3, 4, voilà, maximum. Et on ne garde que le plus haut. Et c'est en affrontement direct avec un adversaire ou un niveau de difficulté. Donc, si un adversaire veut vous nous empêcher, parce qu'il nous a vu, il va lancer ses dés de 6 avec ses traits ou pas. Et puis, s'il fait plus haut, bah, ça veut dire qu'il a réussi à éviter. Et l'affrontement est direct. C'est pas je pars, j'arrête. C'est le premier, celui qui fait plus haut, il touche. Voilà.
OK.
Donc, et ça laisse, en fait, ce qui est assez intéressant pour ce type de jeu, c'est que ça laisse place aux joueurs à trouver un bon justificatif pour justifier d'un avantage. Voilà, c'est pas juste ah oui mais là j'ai une compétence. Ouais bah t'auras qu'un dé de plus. Mais si tu te caches ou si vous venez à trois pour lui faire peur, bah ouais.
Ça fait plus de dés, ça apporte plus d'éléments dans la narration en plus.
Et ça marche bien. J'ai vraiment aimé. À la base c'est pour Cthulhu, mais j'ai bien aimé ce système. C'était le troisième système que j'ai testé. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit ouais c'est sûr, c'est celui-là.
Bah parfait.
Ouais ouais ouais. Donc c'était bien. Donc on joue comme ça. Donc ça laisse vraiment la place à la narration, à l'histoire. Sans avoir des tonnes de compétences.
Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer qu'est-ce que c'est que les miaulements d'Ultar?
Alors, miaulements d'Ultar, c'est une drôle d'aventure aussi. C'est, en fait, avec mon jeu précédent, j'ai fait beaucoup de conventions et j'ai vu qu'il y avait une appétence, en fait, aux débutants, aux gens qui avaient jamais joué. Et j'ai beaucoup de projets de jeux de rôle. Et puis je me suis dit, ah, ça serait bien de caser entre les deux un petit jeu pas trop compliqué, assez fun. Puis je voulais faire, alors c'est un peu la mode, mais je voulais faire ça avec des animaux. Je trouvais rien qui justifiait d'y aller en fait. Et je suis retombé sur la nouvelle de Lovecraft, des chats d'Ultar.
Ok.
Et je dis bah voilà, en fait c'est écrit. c'est, il suffit de jouer ces chats. Donc ça c'était la première idée. Et puis me dire bah la deuxième idée c'était dire bah ouais mais faut refaire un énième jeu sur Lovecraft. Moi dans ma bibliothèque j'en ai à tous les étages. Et donc c'était pas très intéressant. Et donc l'idée de l'écriture c'était dire je vais pas faire un jeu complet, mais je vais faire plutôt un add-on au jeu qui existe. Si les gens veulent jouer en réutilisant ce qu'ils ont des autres gammes, et ben je vais leur expliquer comment. Et donc le jeu d'écriture, ça a été de jouer un élément du bestiaire, des chats d'Ultar qui viennent de la contrée du rêve, donc avec toute cette notion de rêve, etc. Et puis en même temps de dire, Bah moi, je vais vous expliquer. Si vous avez un vieux Casus avec des scénars dessus et vous savez pas quoi en faire, bah moi, je vous explique comment transformer 3-4 petits trucs pour que ça marche avec les miaulements du tard. Et donc, voilà, les miaulements du tard, c'est vous allez jouer un élément du bestiaire, soit dans la contrée du rêve, soit dans le monde réel, et vous pouvez réutiliser vos vieux suppléments. Donc, on garde les codes de l'appel de Cthulhu, de Cthulhua, tous les Cthulhu, avec de l'enquête, avec des investigateurs, avec des cultistes, avec tout ça. Mais cette fois, c'est les chats. C'est la déesse Bast qui est vénérée par ces chats, qui donne des pouvoirs à ces chats de la contrée pour leur dire, bah, attention, si les humains, ils n'arrivent pas à gérer leurs problèmes, l'univers, les mondes vont être déséquilibrés. Donc, allez les aider et allez-y. Voilà.
Mais du coup, j'ai une question. Si on joue des chats.
Oui.
Il y a beaucoup d'enquêtes dans Cthulhu.
Oui.
Comment un chat mène l'enquête?
Ah, ça a été le jeu de l'écriture en fait. Bah, comment il mène l'enquête? Déjà, il a plein de pouvoirs.
Ok.
Déjà qu'il a plein. Déjà, il comprend nativement l'humain. Un humain parle, il le comprend et il sait lire l'humain.
Mais est-ce que lui peut se faire comprendre des humains?
Ah non. Alors, on est dans du Cthulhu. Si un chat commence à te parler, ta santé mentale va diminuer. À part la petite grand-mère qui dit oui, bah si, elle me parle tous les jours, je vous assure. Non. En fait, t'as beaucoup de pouvoirs. En fait, t'as des pouvoirs qui te permettent de lire les pensées, d'influencer, de modifier les souvenirs, de créer des illusions, toutes sortes de choses qui vont pallier le fait que tu n'es pas un investigateur. Et donc, l'idée, c'est plutôt, tu vas y aller de manière discrète dans les lieux, tu vas écouter, tu vas rentrer dans des lieux que les humains ne peuvent pas rentrer, tu vas utiliser ton pouvoir pour faire croire que, finalement, t'es un homme, donc tu lui mets une illusion, toutes sortes de choses. C'est un jeu beaucoup plus d'investigation et d'astuces pour trouver comment faire. Voilà. Moi, je sais que je suis un vieux joueur de Cthulhu, dans toutes les campagnes, ça se termine à la dynamite et puis on fait tout sauter.
Là,
ça marche pas. Avec tes petits coussinets, ça va pas loin. Et donc, tu vas être peut-être obligé de parler humain, parce qu'il y a des pouvoirs parler humain, mais tu vas être obligé de téléphoner à la police. Tu vas peut-être croiser des investigateurs qui font l'enquête, donc tu vas les aider à les mettre sur la piste. Ou tu vas faire toi-même, mais tu vas devoir vraiment réfléchir comment empêcher ce cultiste d'invoquer Azathoth. Voilà.
Oui, il y a tout un panel de choses à travailler mentalement pour pouvoir agir.
Ouais, c'est beaucoup moins direct.
C'est moins intuitif.
En fait, ça devient vite intuitif parce que t'as beaucoup de pouvoir, donc tu sais que tu vas faire ça, t'as des ordres prononcés, tu peux imposer quelque chose, des réponses immédiates, ou quand tu miaules quelque chose, en fait, il y a une petite phrase de 3 mots maximum, la personne en face qui entend ton miaulement est obligée de répondre sans savoir qu'elle parle, en fait, à haute voix. Donc t'as plein d'éléments de pouvoir qui vont peu à peu te faciliter la vie. Mais c'est un jeu dans le jeu. Enfin, on peut, pour les vieux briscards, c'est une extension à tout ce qu'ils ont. Et puis pour les débutants, c'est plutôt fun de jouer des chats dans un univers sérieux où tu joues un peu rigolo. Voilà.
Le jeu lui-même a déjà ses propres scénarios ou ça se base uniquement sur l'existant?
Non, il sera autonome. Voilà. Okay. Là, il a terminé son financement participatif. Il a été, je suis à 380%. Et en septembre, octobre, les gens vont recevoir le livre des règles et un livre de scénarios avec une dizaine de scénarios, avec une campagne à l'intérieur. Et donc, il est autonome. Mais dedans, il y a un chapitre qui dit, j'ai étudié à peu près 60-70 scénarios.
Ok.
Et j'ai essayé de comprendre et j'ai décortiqué, en fait, comment était l'amorce des scénarios, comment l'intégrer en jouant des chats. Et j'ai aussi essayé de voir le rapport avec l'indice, comment ces indices pouvaient venir aux joueurs. Voilà. Donc je donne plein de conseils pour faciliter ça. Par exemple, je dis que les PNJ doivent beaucoup plus parler entre eux. De policiers, on va pas les interroger, on est un chat. Par contre, ils peuvent échanger entre eux.
Ouais,
et donc les chats sont là à écouter, etc. Voilà, il y a plein d'astuces que je dis. Comment ce scénario sans rien changer, finalement, vous pouvez le faire fonctionner avec ces chats.
Ouais, ça demandera au maître du jeu quand même pas mal de travail pour l'adaptation.
Non, vraiment, j'ai fait l'exercice. J'ai été jusqu'à prendre la campagne des masques.
Okay.
Je l'avais fait en tant que joueur.
Gros morceau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, gros morceau. Un peu répétitif, mais gros morceau. Et alors, je ne suis pas ma boule, je n'ai pas refait toute la campagne, j'ai juste fait New York. Et j'ai proposé aux joueurs, moi j'avais été joueur à cette campagne, aux mêmes joueurs, j'aurais dit, vous ne voulez pas tester avec les miaulements du tard quelle serait la vision avec les chats? Et donc, j'ai changé 3-4 éléments, mais vraiment l'amorce. Et après, tout le reste était pareil. Par contre... Alors, on a un peu fait un mécanisme un peu particulier, c'est que parfois, on faisait 2 séances de chat, 1 séance en tant qu'investigateur. C'était assez intéressant de jouer les investigateurs et puis des fois les chats qui viennent aider les investigateurs parce que je voulais tester la co-investigation qui est un système de jeu dans, que je propose. Mais non, c'était beaucoup plus fun en fait. Donc la grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus fin. En tant qu'investigateur, tu veux une information à un journaliste, il te répond pas, tu le secoues. Voilà. À Cthulhu, alors je pense pas que tout le monde joue comme moi, mais en tout cas avec les joueurs que j'ai ou autour de moi quand je joue à Cthulhu, quand on n'a pas de réponse, ça finit mal pour la personne en face. Et ben là c'est pas le cas en fait parce qu'on peut pas. On est un chat. Et donc il va falloir l'observer, le suivre, aller fouiller chez lui, rentrer chez lui, passer par un soupirail, lui envoyer un pouvoir pour qu'il pense que c'est sa voisine qui lui amène quelque chose à manger. Tu vois, c'est beaucoup plus fin en fait. Voilà, c'est un autre jeu.
C'est une autre façon de jouer.
Et ce qui était vachement intéressant, je trouvais, c'est que Cthulhu, c'est un jeu sérieux où il y a tout un background en fait, qui est tout un matos. Et c'est venir s'adosser à ce matos qui est bien. Pour dire, vous pouvez continuer à jouer comme avant, mais parfois vous pouvez faire des versions chat, du bestiaire. Il y a une cohérence dans tout ça. Voilà, ouais. Voilà un peu le jeu. Et en convention, j'ai dû faire à peu près une centaine de parties aujourd'hui, depuis 2 ans. Ça marche bien. Ça marche super bien. Ça marche tous les âges, en fait. Les tout petits enfants, ils comprennent pas que c'est du Cthulhu, mais ils jouent en phase avec des monstres. Et donc ça griffe, ça saute, ça court. Et puis les vieux briscards, en fait, ils sont dans un univers qu'ils connaissent, mais cette fois ils jouent du bestiaire.
Ouais, on peut s'adapter à tous les âges avec ce jeu-là.
Ouais, ça marche bien. Ça marche très 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 bien.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mécanique du jeu en lui-même ?
Il fallait rester compatible.
Ouais.
Donc c'est du dessin.
Aussi simple que ça.
À la seule différence, c'est que ça avait plus de sens d'avoir un chat avec conduire, aviation, médecine, tout ça. J'ai conservé que les compétences, donc de la force, dextérité, etc. Et avec les playtests, on a vite vu que les chats avec charisme et agilité, ils faisaient tout. Et donc a été rajouté précision et discrétion en dessin. Il y a aussi la folie, il y a aussi des points de magie, il y a tout ça. C'est un tout petit peu différent parce que les chats, comme ils viennent de la contrée du rêve, ils sont habitués au mythe, ils ont pas peur du mythe. Alors donc, il y a tout un chapitre qui décrit la peur du chat. Donc une peur plutôt de choses qui sont qui surgissent d'un coup et qui font du bruit d'un coup, ou une peur, la folie du chat. Voilà, elle va regarder le mur, on sait pas pourquoi, et puis voilà. Et donc il y a un mécanisme qui permet d'amener cette folie au joueur. Souvent, ce que je dis dans le livre des règles, je dis si un joueur à table pendant la partie à un moment il joue plus, c'est lui qui va lancer le dé de folie. Et s'il loupe son dé de folie, vous décrivez juste aux autres qu'il est en train de regarder le plafond. En fait, il y a un truc qui le turlupine. Et au joueur, on peut lui dire là depuis tout à l'heure, en haut de l'étagère, il y a un livre qui dépasse et ça te turlupine. Là, pendant 5 tours, hein, ton seul objectif c'est de le faire tomber. Voilà, c'est ça la folie du chat. Et donc vraiment, ça a été un jeu d'écriture, pas d'univers, parce que l'univers il existe, mais d'écriture comment. Ah, j'en ai vu des émissions de chats. Hein. Oui. Essayer de baisser la caméra, de voir comment ils se comportent entre eux, comment leurs relations sociales qu'ils ont avec les autres animaux entre eux. Donc voilà, c'est vraiment, je décris tout ça.
Ok. Et les playtests, du coup, se passent bien.
Ça passe bien. Ouais, ça marche bien. Voilà, maintenant c'est bien rodé. Au début, il a dû adapter. Voilà, je baissais pas assez la caméra. Les gens avaient l'impression dans les premières parties qu'ils jouaient un investigateur avec des pouvoirs. Et donc j'ai dû réécrire tous les passages pour dire attention, la caméra faut qu'elle soit au niveau du genou. Tant que le joueur il monte pas la tête et il exprime pas qu'il regarde en haut, il voit que dans une pièce il va sentir l'odeur, la poussière, les barreaux de chaise, il voit que ça.
Ouais, ça nécessite effectivement, comme tu le dis, de baisser la caméra.
Il faut baisser la caméra. Voilà, c'est le seul conseil que je donne vraiment quand on veut jouer à ça, baisser la caméra.
Quand tu t'es lancé sur le miaulement d'Ultar, est-ce que tu t'es pas dit, il y a déjà, je pense que c'est un hasard du calendrier, il y a quand même pas mal de jeux de chats en même temps, que ce soit Cats, Donjons et Chatons, il y avait l'appel de Cthulhu, mais qui doit être un petit peu plus vieux.
Qui est plus vieux, et là c'est Cthulhu qui est un chat.
Ouais.
Voilà. Oui, bien sûr, Cats la mascarade, Vincent, je le croise de temps en temps, son jeu, il est là aussi, tu vois. Mais au même titre que des jeux médiéval fantastiques, il y en a des kilos, voilà. Et moi, j'aurais pas pu faire, et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de trouver quel animal prendre. J'aurais pas pu refaire un Donjon et Chaton. C'était ridicule. Ça apportait rien de plus. Ce qui a été fait pour Donjon et Chaton, c'est très très bien. La charte graphique, elle est l'illustration, elle est incroyable. Il y a une patte. Qui donne toute sa force, hein, au jeu, hein, vraiment. Ouais. Hein. et donc ça rimait à rien. Et le fait d'avoir vu la nouvelle de Lovecraft, les chats d'Ultar, en fait, ça m'a donné un passage, en fait, cohérent. Voilà. Je pouvais pas faire un autre Cthulhu Mascarade. Toi, c'est ridicule.
Ça aurait pas été.
Ça m'aurait dérangé. Que là, je me dis, bah, ils sont là, ces chats d'Ultar. En fait, ils ont toujours existé.
Ah, effectivement, c'est vrai que des fois, hasard de calendrier, hasard d'idées, il y a deux projets qui sortent avec des idées très très proches.
Oui.
Et t'aurais pu te dire, mince, est-ce que ça va pas capoter parce que justement.
Oui, ça.
Il y en a trop.
Oui, mais il y en a beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand tu lances un financement participatif, il y en a beaucoup. Voilà. Et il y en a tout le temps.
Et tu regardes quand même ce qui existe avant de te lancer.
Alors oui, tu vises. Moi, j'ai visé une période par rapport à l'année dernière, tout. Mais en fait, cette année, par exemple, il y en a eu tout le temps. Il y a des choses qui apparaissent à venir sur Game on Tabletop. Voilà, donc un jour, il y a 5 jeux qui arrivent. Et donc, en vrai, c'est super compliqué, en fait. Puis c'est un métier. Puis quand on est en auto-édition, en fait, on sait rien, en fait. On y va un peu avec une idée. Voilà. Et voilà, c'était peut-être pas la meilleure période, mais j'ai envie de passer à la suite aussi.
C'est pas une mauvaise période, puisque du coup, ça a marché.
Oui, ça a marché. Ah ouais, je suis content, très content.
Est-ce qu'on en parle justement de ce financement? Tu demandais 3 000 euros,
oui.
Là, tu es à 11 800, c'est quasiment 400% du budget.
Ouais, je suis content.
Ça permet de le faire, c'est bien.
Ah bah, à 3 000, de toute façon, je le faisais. À 11 000, je le fais vraiment. je le fais vraiment, et donc c'est agréable de voir ça. Voilà, de voir les chiffres, on arrive à ça. Je suis tout seul, hein, donc c'est bien.
Ouais, c'est une bonne réussite. T'es en late pledge pendant encore
longtemps.
90 jours jusqu'au 30 juin. Donc les gens ont encore la possibilité, de participer.
Moi, je garde le late pledge en fait tant que j'ai pas défini mon bon d'impression. Voilà. Donc je pense que fin juin, début juillet, je vais arrêter et puis ça sera prêt et j'enverrai à l'imprimeur voilà. Parce que je sais pas.
Oui, ça sert à rien de faire perdurer
après un moment, mais là je le laisse. Bon, voilà.
Et si les joueurs veulent acquérir les meulements d'Ultar, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir du coup dans le Late Pledge?
Alors, les meulements d'Ultar, c'est un livre des règles qui fait à peu près 140 pages, 150 pages, avec tout le système de jeu, avec je parcours les univers du réel et de la contrée du rêve. Hein. C'est pas un supplément qui va décrire toute la contrée du rêve. Hein. Il y a des choses très bien faites à côté. Hein. Comme j'ai dit, c'est un add-on, mais ça suffit pour ceux qui connaissent pas la contrée des rêves et ceux qui connaissent un peu. Bah, j'ai creusé un peu plus. Et donc il y a le livre des règles. À l'intérieur, il y a un scénario. Et à côté, il y a un bouquin aussi de 150 pages avec une campagne et des scénarios one shot, à peu près une dizaine de scénarios. Et dans la contrée du rêve et dans le monde réel, il y a aussi un bestiaire. Dedans, il y a un bestiaire recto verso, ça veut dire que c'est un carnet à spirale et on le pose sur la table, un côté pour le joueur, un côté pour le MJ. Il y a un écran et après en petit truc en plus, je réédite la nouvelle des chats d'Ultar, mais bon, qui fait 10 pages, donc c'est pas non plus un bouquin, voilà. Et puis quelques goodies, des choses comme ça, voilà. En A5 et en A4.
Voilà, c'est ce que j'allais aborder. Là, moi, j'ai les exemplaires, tes premiers exemplaires en test d'impression. Du coup, le carnet, ça a l'air vraiment cool d'avoir le carnet qu'on pourra mettre posé sur l'écran pour pouvoir montrer en fait les créatures.
Ouais, vraiment, il y a une trentaine, 35 créatures.
Et tu disais format A4 et A5. Oui. Pourquoi donc?
Bah, une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu dis, ouais, ça serait sympa, hein, pour les budgets un peu plus serrés, du A4, du A5, souple. Et puis, pour ceux qui peuvent mettre 30 euros de plus, bah, du A4.
Rigide.
Bah, non, en fait, c'est pas une bonne idée, en vrai, parce que tout coûte cher, en fait. Et puis, imprimer pas beaucoup en A5 et en A4, c'est beaucoup plus cher qu'imprimer un tout petit peu plus que sur dans un format. Ouais. Et donc, on me l'avait dit, hein, mais comme des fois j'écoute pas tout le temps jusqu'au bout, et ben, plus jamais. Voilà.
L'ouvrage en lui-même, tu disais 140 pages, c'est ça?
Ouais, 140 pages.
Full couleur, des illustrations un peu partout.
Ouais, un peu partout.
Tu t'es fait aider en termes d'illustration ou tu dessines toi?
Je fais de l'infographie.
Ok.
Ouais, donc je fais de l'infographie depuis une vingtaine d'années. Et donc je.
Oui, ça aide pour la mise en page, ça aide pour plein de choses, je pense.
Et puis comme je suis informaticien, ça aide aussi. Et donc voilà, je récupère beaucoup d'images sur les banques d'images. J'ai des abonnements. Et puis bah je colle, je décolle, je recolle, je détourne, voilà. Ceux qui regardent attentivement la carte d'Arkham en contre-jour, c'est la carte de Nantes.
Ah ok.
Bah c'est de l'infographie. Là tu vois des rayures, mais parce que c'est pour ma version de test.
D'accord.
Ouais, c'est parce que comme je suis étourdi, j'ai intérêt à bien marquer où j'ai pas fini.
Oui.
Mais pour la mise en page, j'étais obligé de calibrer.
Ouais, je vois. Voilà. Ça fait un beau bouquin pour un coût de, si on prend le pack complet, on est à 80 euros, c'est ça, en A5 ?
80 euros en A5 et 110, je crois, en
A4.
En A4.
Ça va ?
Oui, c'est des prix standards. Hein. Je crois que c'est 30 euros le bouquin seul de règles ou le bouquin seul de scénario en A5 et 40 en dur.
Ça le fait.
Ouais, c'est,
moi, je trouve. Il y a une statuette.
Bah oui, ceux qui veulent vraiment qui ont gagné au loto et qui veulent prendre le pledge ultime des gardiens d'Ultar, on a droit même à une pistadée en forme de chat et une statuette de Bast, parce que quand même on vénère Bast, hein, donc c'est important de l'avoir.
C'est parfait ça. Si tu devais convaincre quelqu'un là maintenant tout de suite en quelques mots d'acheter le mieux-moment d'Ultar.
Oui. En quelques mots?
Ouais. Vraiment, la punchline.
Alors, la punchline, vous aimez le sérieux de l'appel de Cthulhu et vous avez beaucoup de matos, mais vous voulez un peu renouveler le genre, et ben, vous allez jouer des chats de la contrée du rêve qui viennent aider ces pauvres investigateurs.
Parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'éventuellement tu veux parler de projets futurs?
J'ai d'autres projets futurs, des campagnes autour des orques, autour du spiritisme. Voilà, j'ai plein de campagnes. En tout cas, merci de m'avoir invité.
Mais de rien, de rien. On aura l'occasion sans doute de jouer ensemble une partie qu'on va ambiancer pour les voix du scénario.
Ouais, un joli exercice. Ouais,
ouais. Ouais, je pense que ce sera bon.
Ouais, ça peut être sympa.
Merci Xavier.
Merci à toi.
radio-g.fr.